Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
La mémoire nous est familière. Tant qu'elle fonctionne bien, nous nous rappelons hier, avant-hier, notre enfance, des personnages disparus, et tout va bien. Mais nous le savons bien aujourd'hui, il y a des maladies qui affectent la mémoire, par exemple la maladie douloureuse qui a été nommée maladie d'Alzheimer. Nous voyons bien par conséquent que la mémoire peut être affectée, la mémoire peut être troublée, peut être même amputée ou disparaître. Et cela nous permet de rejoindre une des grandes découvertes de saint Augustin dans les Confessions encore, c'est la découverte de la mémoire et de son rôle capital dans la vie d'un être humain. Une des première chose importante à noter, c'est la distinction entre deux mémoires ou deux fonctions de la mémoire. La mémoire qui nous est la plus familière, que nous connaissons le mieux, c'est la mémoire qui nous permet de nous rappeler ce que nous avons vécu, dit, senti hier, avant-hier ou il y a 10 ans. C'est la mémoire donc que nous pouvons appeler la mémoire souvenir. Mais cette mémoire souvenir nous cache une mémoire plus profonde qui est la mémoire personnalité, la mémoire de la personnalité. Ce qu'Augustin appelle en latin « memoria sui » et qu'il faut traduire en français par « la mémoire de soi-même ». En effet, si je me rappelle ce que j'ai fait hier, ce que j'ai subi, ce que j'ai accompli, etc., cela implique que je me rappelle que j'ai été, que j'étais hier, et que je me rappelle que celui que j'étais, je le suis toujours. Nous voyons par là que la première mémoire, c'est la mémoire du souvenir, rappel d'hier, d'avant-hier, etc. Et que la véritable mémoire, c'est la mémoire de soi-même. Si je me rappelle un souvenir lointain ou proche, je me rappelle avoir été et je sais que je suis le même aujourd'hui que celui que je me rappelle avoir été hier ou avant-hier. Et c'est cette mémoire souvenir qu'il nous faut explorer davantage en relation avec la mémoire tout court. Et il faudra aussi explorer la relation de la mémoire avec Dieu. Parce que c'est dans une perspective tout à fait originale qu'Augustin s'interroge sur la mémoire. Il consacre le livre 10 à une méditation sur la mémoire. Cela peut nous paraître étrange, que vient faire un livre entier consacré à la mémoire dans un livre qui s'appelle « Les Confessions ». Mais si nous y prêtons attention, cela n'est pas étrange, c'est le contraire qui serait étrange. De quoi nous parle Augustin dans ses Confessions ? Il nous parle de son cheminement, de sa vie, sa petite enfance, son adolescence, sa jeunesse, jusqu'au jour de sa conversion et jusqu'au jour où il écrit les Confessions, où il est devenu évêque à Hippone et il a 40 ans. Donc, que fait Augustin dans les Confessions, sinon mémoire de soi ? Et il pose par là une question qu'il est le premier à poser de cette façon-là, « Moi, qui ai-je été ? Et moi, qui suis-je ? » Donc c'est bien par la mémoire que je peux me rappeler avoir été, et que je peux me demander, mais qui étais-je ? Et c'est bien par la mémoire que je peux m'interroger sur mon identité et sur la continuité de ma personnalité. Qui étais-je ? Qui suis-je ? Un travail sur la mémoire est donc bien capital pour l'homme qui entreprend de se chercher soi-même et de se découvrir soi-même. Mais c'est aussi capital pour un homme qui est en relation avec Dieu. Et c'est bien cela par quoi il nous faudra terminer la relation tout à fait étonnante qu'Augustin établit entre la mémoire et Dieu. Commençons par le livre 10, chapitre 8, la découverte par Augustin de la mémoire. Ce sont des pages tout à fait profondes, difficiles, subtiles et magnifiques. Augustin parle de la mémoire d'abord par des images, et il parle de la mémoire en prenant l'image des grands espaces et des vastes palais de la mémoire. Alors, vaste palais, c'est une métaphore. C'est une métaphore importante. Nous pourrions noter que chez certains, quand la mémoire est détruite ou abîmée, ce n'est plus un palais, elle peut être en ruine, elle peut être un labyrinthe, évidemment. Donc dans l'expérience, nous voyons que certaines mémoires sont devenues un labyrinthe. On y entre, on n'en sort plus ou on n'y rentre même pas. La comparaison de la mémoire avec un palais, évidemment, vaut pour la mémoire en pleine santé. Que signifie l'image du palais ? Eh bien, dans un palais, il y a de l'ordre, il y a une constitution, une entrée, des sorties, une circulation intestine, et c'est ainsi que nous pouvons aussi parler de la mémoire. je peux entrer dans ma mémoire, y circuler, y trouver des choses oubliées et errer aussi longtemps à la recherche de choses que je ne peux pas retrouver. Donc la métaphore du palais est tout à fait précieuse et il faudra bien sûr l'explorer davantage. Augustin souligne d'abord que c'est dans ma mémoire que je trouve les innombrables images relatives à tout ce que j'ai senti, vécu, dit, non dit, etc. Donc, dans la mémoire se trouve le trésor des innombrables images. Ce sont les images des choses, des personnes, des lieux, des sons, des paroles, etc. Voilà. Un trésor d'images. Il y a donc dans la mémoire d'abord ce trésor d'images. Mais il y a ensuite tout ce que chacun d'entre nous bâtit, construit, modifie à partir de ce trésor d'images. Cela porte un nom, ça s'appelle l'imagination, puisque puisant dans ce trésor des images, notre imagination modifie ces images, les travaille, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, et par là, donc, à partir des images premières, nous obtenons des images modifiées, intentionnellement ou pas. Augustin prend un bel exemple, c'est celui de la remémoration. Et il se demande, qu'est-ce que j'accomplis quand je me remémore quelque chose, quand je raconte quelque chose de mémoire. Et il faut souligner ici le caractère dynamique de la mémoire, qui est capital. La mémoire, c'est quelque chose de dynamique. Quand je rentre dans ma mémoire, quand je pénètre dans ce palais, j'appelle les souvenirs pour que se présentent tous ceux que je veux, écrit Augustin. C'est bel et bien un appel. Le mot « appeler » est un mot important, et nous pouvons déjà le faire sonner dans sa signification théologique, puisque c'est depuis ma mémoire que j'entendrai l'appel de Dieu. Et Dieu, nous le verrons, qui réside dans ma mémoire, m'appelle intimement, intérieurement. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est moi qui appelle. Mais quand j'appelle, il se peut que ce que j'appelle vienne, il se peut que ce que j'appelle ne vienne pas. J'ai beau vouloir appeler tel souvenir, j'ai beau l'appeler, certains ne répondent pas. Et il y a une grande finesse psychologique ici dans laquelle Augustin montre que nous demandons un certain souvenir X, il ne vient pas, c'est un autre Y qui se présente avec l'air de dire « peut-être que c'est moi ». Et Augustin montre que justement je l'écarte, ce n'est pas toi que je cherche, c'est un autre. Donc il y a ici un caractère dynamique, il y a aussi quelque chose d'essentiel à la remémoration qui est le fait justement que je sais ce que je cherche et le sachant, je le reconnaîtrai quand je le verrai de nouveau. Il y a donc bien ici un trésor, qui est aussi un puits, un abîme, puisqu'il y a mille choses, et Augustin le souligne, et c'est très profond, c'est très important, il y a mille choses dans cette mémoire que moi-même je ne pourrai jamais me rappeler. Et donc je ne pourrai pas les appeler, puisque je ne me rappelle pas cela. Quand tout va bien, j'appelle un souvenir et il revient. Et il revient, alors Augustin emploie un mot important qui est le mot de série, qui signifie qu'un souvenir n'est jamais isolé, mais qu'un souvenir est toujours dans un système, dans un ensemble, et toujours en relation avec d'autres souvenirs. Si je me rappelle tel souvenir de ma jeunesse, eh bien je me rappelle une certaine journée, avec la lumière de cette journée, les paroles, les sons, les odeurs. Voilà. Et un souvenir donc n'est jamais seul, mais il est toujours un tout, et il est toujours dans une série, dans un ensemble de ordonnées, de souvenirs. Il y a donc là quelque chose d'étonnant, si nous y regardons bien. Parce que ce qui intéresse Augustin ici, c'est la merveille qu'est l'âme humaine. Et c'est pour conduire cette âme humaine à s'émerveiller d'elle-même en revenant à un émerveillement antérieur qui est l'émerveillement devant Dieu. Augustin vient de souligner le fait que les animaux n'ont pas cette mémoire-là. Ils ont bien sûr une forme de mémoire élémentaire, mais pas cette mémoire volontaire, cette mémoire intelligente qui consiste à vouloir et à savoir retrouver et se représenter ce qui a été, en le mettant devant ses propres yeux. Voilà, donc le premier point, c'est cela. Les souvenirs peuvent revenir, les uns à la suite des autres, je peux les rappeler et me les rappeler. À partir de là, Augustin s'interroge sur les souvenirs des choses que nous avons senties, donc ce qu'on pourrait appeler ici une mémoire sensorielle, évidemment, et il travaille cela pour montrer que notre mémoire est active. Quand nous sentons, quand nous ressentons, en même temps que nous sentons, notre mémoire recueille, accueille et recueille ce qui est senti, ces images, et elle les recueille en les articulant et en les conservant, dans ce qu'il appelle les ineffables replis. La mémoire est donc comme un vêtement plié et indéfiniment ou infiniment plié et que nous pouvons déplier, replier, pour retrouver ce qui a été mis dans un pli. La mémoire est donc une merveille. Cette mémoire permet à l'âme humaine de se remémorer, c'est-à-dire de se remettre comme devant les yeux, intérieurement, ce qui a été senti auparavant et qui est maintenant absent. Donc un des points les plus étonnants qui fait la merveille de l'âme humaine, c'est cette capacité de se représenter ce qui a été en sachant que cela n'est plus. C'est bien donc avoir affaire au néant, avoir affaire au ne plus être, avoir affaire au passé, que se rappeler quelque chose qui a été et qui n'est plus. La chose a beau être absente, je peux me la rappeler et je peux par là comme la présenter de nouveau à mon regard intérieur.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Voici la première fonction de la mémoire. Je lis Augustin. Je distingue l'arôme des lys avec celui des violettes sans rien respirer. En l'absence, donc je commente, en l'absence de la chose, je peux me remémorer la chose et sentir même l'odeur de la chose dans son absence. Cela, c'est la mémoire qui me rappelle quelque chose qui a été, que j'ai senti, etc. Augustin note que c'est au-dedans, dans l'intériorité. Ce qui veut dire que la mémoire est un trésor, et c'est par la mémoire comme trésor que chacun est un trésor pour soi, et peut puiser dans ce trésor de ce qu'il a été, de ce qu'il a ressenti. Mais Augustin fait un pas de plus pour montrer que, dans ma mémoire, je le lis encore, je me rencontre aussi moi-même, je me souviens de moi-même, de ce que j'ai fait, quand et où je l'ai fait, et quelle impression j'ai ressenti quand je le faisais. Là se trouve tout ce dont j'ai fait l'expérience, ou que j'ai cru et dont je me souviens. Commentons ce passage. Donc ça veut dire que, non seulement par la mémoire, je peux me rappeler un certain hier, un certain souvenir, mais encore je peux me rappeler à moi-même. Je me souviens de moi-même. C'est cette mémoire de soi. Je me souviens avoir été et je reviens à moi-même. Ça, c'est un point capital qui distingue l'esprit d'avec le corps. Cette capacité de revenir à soi, ce qui s'appelle réflexion, qui s'appelle en grec épistrophé. Je me rappelle à moi-même, je reviens à moi-même. Vous noterez que c'est le vocabulaire même que nous employons lorsque quelqu'un, par exemple, sort du coma, nous disons « il est revenu à lui ». C'est le vocabulaire de l'homme qui se réveille le matin, qui revient à soi. Voilà quelque chose d'essentiel à la vie de l'esprit, le retour à soi, revenir à soi et se ressaisir et se sentir en s'unifiant. Ce que montre Augustin, c'est que cela n'est possible que par la mémoire. Si je n'étais pas mémoire, et si je n'étais pas mémoire de moi-même, le passé serait à jamais aboli, insaisissable, impossible à rappeler, et ce que j'ai été serait perdu définitivement. Mais parce que l'esprit a une mémoire du souvenir, et parce que l'esprit est mémoire de soi, il peut unifier aujourd'hui ce qu'il a été avec celui qu'il est maintenant. Et c'est donc bien la mémoire qui permet l'expérience, et l'expérience spirituelle comme expérience personnelle. Augustin emploie une très belle image, c'est l'image du tissage, comme le métier à tisser qui permet de faire un seul et même tissu à partir de fils différents. Eh bien, c'est donc bien ma mémoire qui me permet de tisser la trame du passé. Parce que c'est la mémoire qui fait que les différents fils de mes sensations, de mes actes, du monde dans lequel j'ai été mis, c'est tous ces fils-là sont unifiés par ma mémoire. Vous noterez au passage, sans que j'ai à y prendre attention, sans que j'ai à le faire volontairement. La mémoire travaille d'elle-même. Et cette mémoire unifie la trame de mon expérience. Elle fait donc que c'est un seul et même tissu que le tissu de mon passé et de mon présent. Augustin fait un pas original à partir de là pour montrer quelque chose de nouveau. Le premier point qui est évident, c'est que par la mémoire, chacun se souvient avoir été et se rappelle ce qu'il a été. Le paradoxe maintenant, c'est qu'il faudrait parler de mémoire de l'avenir. Non pas en ce sens que nous nous rappellerions ce qui sera, puisque par définition nous l'ignorons, mais en ce sens que c'est grâce à la mémoire que nous savons qu'il y aura, que nous savons que quelque chose sera. Quand je me remémore avoir été, j'unifie ce que je me souviens avoir été avec ce que je suis. Mais par là même, c'est grâce à cela que je peux anticiper ce que je serai. Et donc il y a ici, par la mémoire, une unification de la trame de mon expérience. Je me souviens avoir été, je me sens exister et j'anticipe, je sais que je serai, sans savoir, bien sûr, ce que je serai. Vous voyez donc ici la mémoire qui tourne l'âme vers elle-même, qui la tourne vers son passé, vers son présent et vers son avenir, et il faudra terminer par là, qui la tourne vers son auteur, qui la tourne vers Dieu. Alors, continuons néanmoins pour l'instant l'étude de la mémoire. Augustin, au livre 10, chapitre 8, fait une remarque importante qui relève du concept d'étonnement. Nous nous étonnons de mille choses et nous ne nous étonnons pas de ce qui devrait nous étonner par-dessus tout, qui est l'âme, l'âme spirituelle. Et notamment ici, l'étonnant, c'est le fait que, alors même que l'océan est absent et n'est pas devant mes yeux, je peux intérieurement me remémorer l'océan et le voir tel que je l'ai vu, tel qu'il est en lui-même. Et il y a donc là quelque chose d'étonnant, c'est la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit qui se remémore ce qui a été et qui peut, dans l'intériorité, justement, voir et sentir, éprouver toute chose. Sauf qu'il y a ici une difficulté, c'est que si tout ce qui est dans la mémoire est seulement en partie susceptible d'être rappelé, s'il y a ce trésor qui est à jamais hors de prise pour moi, cela veut dire que ma mémoire, c'est bien moi, ma mémoire, c'est moi-même tout entier, mais que cependant, je ne peux pas saisir tout ce que je suis. Et Augustin y insiste en notant l'infinité de la mémoire. Cette infinité de la mémoire fait que l'homme, la personne humaine, ne peut pas elle-même se saisir, ne peut pas elle-même saisir, connaître tout ce trésor qui gît en elle, qui reste dans les profondeurs, plus ou moins inconsciemment. Augustin s'intéresse à la formation des images sensorielles, à la formation des connaissances. Il note au passage que les connaissances scientifiques ne nous livrent pas des images, des choses, comme les sensations, mais nous livrent les choses elles-mêmes qui sont ici des idées. Alors, ce qui est important aussi pour la sensation, c'est un autre point qui est en relation avec la sensation, qui est ce qu'on appelait les passions. Augustin fait une découverte aussi importante, c'est le fait que se remémorer un sentiment n'est pas revivre ce sentiment. Par exemple, je peux me souvenir avec joie d'une tristesse passée, parce que cette tristesse est maintenant dépassée. Je peux me souvenir avec tristesse d'une joie passée, parce que cette joie n'est plus. Et donc là, nous voyons bien comment le souvenir n'est pas une réviviscence. Me souvenir de X, ce n'est pas revivre X. Alors, on pourrait croire que si je suis dans le même état, j'étais dans la joie et je me retrouve dans la joie, là, à ce moment-là, je vis de nouveau la même joie, peut-être en un sens, mais cependant, le fait de revivre le fait de me remémorer cette joie fait que ce n'est plus exactement cette joie que j'ai vécue, puisque s'ajoute au souvenir, à l'affect de la joie, s'ajoute le savoir que cette joie a été et qu'elle n'est plus, ou que je peux la réactualiser par le souvenir, mais que précisément c'est autre chose, ce n'est plus une joie comme telle, en acte, c'est un souvenir d'une grande joie. Augustin emploie une belle image pour parler de cela, c'est l'image de l'estomac. Il dit donc la mémoire ici comme l'estomac de l'esprit. L'estomac, c'est ce qui nous permet de digérer. Nous ingurgitons un corps étranger, et au lieu de le rejeter purement et simplement, le corps humain, par la digestion, s'assimile ce corps étranger. Eh bien, c'est une image pour montrer que notre âme, par la mémoire, fait quelque chose de semblable. J'ai senti quelque chose, j'ai ressenti, c'est une passion, une joie, une tristesse, une amitié, un amour, que sais-je, et ce que j'ai ressenti, cela maintenant est digéré. Cela maintenant est quelque chose dans ma mémoire, et je peux donc me le remémorer, je peux le mettre comme à distance de moi, et c'est capital pour un autre point qui est la liberté. C'est que se remémorer un événement, aussi douloureux qu'il soit, ce n'est pas y replonger tel quel, il y a la distance du passé et la distance que permet la mémoire, et c'est donc le poser devant soi et pouvoir s'en distancier. Donc c'est une expérience de la liberté. Augustin note que l'esprit est la mémoire elle-même, c'est ce qu'il appelle la mémoire de soi, ce qui veut dire qu'on ne peut pas séparer la mémoire d'avec l'esprit. Une âme spirituelle sans mémoire, ce n'est plus une âme spirituelle, ce serait un morceau de bois, un caillou. Ce qui caractérise l'âme spirituelle et qui fait sa grandeur, c'est qu'elle est capable de ce souvenir dont nous parlons et qu'elle n'est pas capable de ce rappel à soi, de ce souvenir de soi, d'être mémoire de soi. Augustin, de manière très fine, au livre 10, chapitre 16, fait remarquer que quand je dis « moi », je dis « moi » grâce à la mémoire. Il le dit donc, je ne pourrais pas exprimer ce « moi » lui-même sans la mémoire. C'est moi qui me souviens, moi, l'âme spirituelle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Quand nous disons « moi » ou « je » dans la vie quotidienne, encore, nous n'y prêtons guère attention, c'est une habitude grammaticale, nous employons la première personne du singulier. Mais quand je dis « moi », de manière vive, attentive, profonde, quand je dis ce « moi », ce « moi » n'est pas un « moi » instantané. Quand je dis « moi », puisque ce « moi » est une trame unifiée d'une expérience unique, du commencement jusqu'à un terme à venir, eh bien, quand je dis « moi », ce n'est pas « moi » ici et maintenant, c'est moi dans la longue durée, c'est moi dans la durée, c'est moi tout entier. Et si je ne me rappelais pas avoir été, si je ne me savais pas, étant le même qui a été, qui est et qui sera, justement, je ne pourrais pas dire « moi » tout simplement. Le « moi » donc repose entièrement sur la mémoire. Venons-en maintenant à l'expérience de Dieu. Nous voyons déjà ici un point capital, c'est que c'est le fait que l'esprit soit mémoire de soi-même qui lui permet d'être un avec soi, de se tourner vers soi et de se sentir soi-même. C'est donc la mémoire qui met l'esprit en présence de soi-même. Et c'est la mémoire qui fait que l'esprit dispose des images, qu'il est libre par rapport à soi et qu'il est capable de se connaître soi-même. À partir de là, Augustin n'a pas perdu de vue la visée de ce texte-là, qui consiste à se demander « est-ce que Dieu est dans la mémoire ?» Et la réponse étonnante qu'il donne, c'est que Dieu est dans ma mémoire. De quelle manière ? Eh bien, d'abord, il peut être dans ma mémoire sous forme de l'aspiration à la vie heureuse. Mais Augustin le note, la vie heureuse, c'est une pensée, c'est une aspiration, ce n'est pas une expérience passée. Le deuxième point, c'est que à partir de sa conversion, Augustin a découvert la vie avec Dieu. Et à partir de là, Dieu, dit-il, est venu demeurer dans sa mémoire. Augustin cherche quel est le lieu dans l'âme humaine dans lequel Dieu vient séjourner. Et une de ses grandes découvertes ici, c'est que ce lieu, c'est la mémoire. Non seulement dans ma mémoire, je peux me rappeler ce qui a été, je peux me rappeler que j'ai été, mais enfin, au mieux, dans ma mémoire, je peux me rappeler mon Dieu. Je lis ce que dit saint Augustin. « Je n'ai rien trouvé de toi dont je n'eusse le souvenir depuis le jour où je t'ai connu. C'est que depuis le jour où je t'ai connu, je ne t'ai pas oublié. En effet, là où j'ai trouvé la vérité, là j'ai trouvé mon Dieu. Aussi, depuis que je t'ai connu, tu demeures dans ma mémoire, et c'est là que je te trouve quand je me ressouviens de toi et que je me délecte en toi. Voilà mes saintes délices, celles que tu m'as données. » La plus haute mémoire, c'est l'intériorité, c'est rentrer en soi-même, puisque Dieu, je l'ai rencontré, puisque Dieu, je l'ai connu, et qu'il a daigné venir habiter dans le secret de mon âme. Quand je rentre en moi-même dans ce sanctuaire, comme dit Augustin dans cette partie la plus secrète du palais dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, qui je découvre? Je découvre non pas moi-même, mais je découvre lui, et je me ressouviens de lui. Donc c'est parce que l'âme est mémoire de Dieu, ultimement, qu'elle est mémoire de soi. Et c'est parce qu'elle est mémoire de soi qu'elle est mémoire de Dieu. Puisque en revenant à soi, la mémoire peut revenir à Dieu et découvrir la joie de l'amour.